Antipa rencontre Timothée. Quand Antipa quitte Dorylas, il va voir deux ou trois camarades. Il cause un peu tout partout avec les gens qui s'occupent du vote. Il apprend que néanmoins fait une propagande en force pour faire voter pour le petit monsieur qui est toujours là. Il dit « C'est bon, demain, il faut que je voie néanmoins. » Avant de rentrer chez lui, il va chez Timothée, un nègre qui est chaud pour le vote. Antipa est bien avec lui. Il est le parrain d'un enfant de Timothée. Timothée habite rue de Provence. Dès l'arrivée d'Antipa, il commence à parler des élections et puis la conversation dévie au sujet des bagnards. « Tu vois, » dit Timothée, « comment les choses s'en mêlent dans ce pays ?»« M'en parle pas, compère, » répond Antipa. « N'est-ce pas de ça dont on parlait avec Dorylas quand nous déjeunions ensemble ?»« La situation est grave, mon cher Timothée. Aussi, il faut que demain, sans faute, je voie néanmoins. » Maintenant, ils veulent envoyer seulement les bagnards. J'ai même entendu dire qu'ils vont en doubler le nombre avec les récidivistes. Il y a un blanc qui est arrivé de France exprès pour ça. Il croit que tous les gens vont prendre des récidivistes. Ils ont le culot de dire qu'ils doivent se marier ici. Nous n'avons pas demandé ces gens-là. Que pouvons-nous faire? Quand il y a trop d'eau pour le crapaud, que veux-tu qu'ils disent? Les oreilles ne peuvent pas être plus hautes que la tête. Est-ce qu'on peut aller en France battre le ministre? Celui qu'ils ont envoyé en France pour discuter avec lui n'est pas fort, tant pis pour nous. Il ne veut ni coulis, ni popote. Qu'est-ce qu'il veut? Encore, est-ce que c'est bien vrai qu'il ne veut pas des bagnards? Le discours qu'il a fait, son soutien au gouverneur, tout ce qu'il nous a dit est faux. Affaire conclue, circuler, y a rien à voir. Tu vois, dans cette affaire, il y a anguille sous roche. Il faut qu'on le surveille, oui, parce que c'est une anguille électrique. Au bout du compte, les popotes ne peuvent pas rester ici comme ça, sans rien faire pour nous. Le pays n'est pas à eux. Ils ne sont pas là pour planter des vivres, pour faire le travail des habitants. Bientôt, ils les enverront dans les placères aussi. Alors, je sais que les Blancs disent que ce sont eux qui ont fait la guerre à Sepérou, le roi indien qui vivait en haut du fort. Ce sont eux qui ont chassé les Hollandais et les Portugais. Mais le pays n'est pas seulement à eux. Ils ne peuvent pas nous mettre dehors pour les popotes. Les popotes sont là pour faire les gros travaux. Après, nous verrons. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas même fait le moindre petit chemin de fer pour aller sous le vent. Quand nous disons de fouiller la crique, ils répondent « il n'y a pas de popote, il n'y a pas d'argent ». Est-ce que c'est vrai? S'il n'y a point d'argent, pourquoi le budget est si élevé? Peut-être diront-ils qu'il faut nous vendre pour faire de l'argent? Tout le budget qui doit être là n'est même pas là. Le paquet sort de la tête, il tombe sur les épaules, il ne va pas du bon côté. Quand ils donnent deux popotes pour nettoyer les rues, il faut payer. Et pourquoi ça? Tiens, un ingénieur est arrivé. Ils ne l'ont pas fait venir gratis. Faut qu'il trouve de l'argent et des bras pour qu'il travaille. Pour lui-même, faut beaucoup d'argent pour le payer. Depuis le temps que les ingénieurs mangent de l'argent tout partout dans les placères sans rien faire, ils ne sont pas encore guéris. Celui-là a commencé par se plaindre. Le registre n'était pas à jour. Avec beaucoup de mal, on lui a rendu sa maison et son service. Qu'est-ce que le directeur dit de tout cela? Celui qui avait ce service croyait que c'était à lui, sa chose. Il me rappelle un vieux monsieur qui travaillait à la douane. Il avait pris la maison pour la sienne. Le dimanche, le directeur était obligé de fermer la porte à clé pour l'empêcher de venir. Les directeurs de l'administration ne sont pas ici pour se disputer entre eux. Ils sont tous des chefs, ils doivent marcher d'un commun accord. D'autres viennent juste pour toucher leur argent. Quand le mois est fini, ils vont au trésor banco. Ils ne s'occupent pas de savoir si les nègres meurent de faim, si le pays périclite. Ils ne veulent même pas voir les nègres en peinture. Si vous ne mangez pas du chien, vous ne devez pas boire son bouillon. Ils sont pas garas, nous sommes armoires. Il y a d'autres qui n'ont pas la reconnaissance du ventre. Quand ils ont fait deux jours ici-là, ils essuient leur bec comme les poules et puis adieu. Encore heureux quand ils ne disent pas du mal du pays. Vous savez que le pays est plein de nègres, pourquoi vous y venez? Restez en France donc, là où il y a seulement des blancs. Une fois qu'ils se sont achetés pour eux une belle maison pour s'y loger, c'est fini. Après, ce n'est pas leur affaire si d'autres pauvres diables continuent de vivre dans leur case en paille. S'ils veulent vraiment ne rien faire, le pays n'aura jamais rien. Tout à l'heure, regarde bien, ils vont écrire au ministre. Monsieur, il n'y a pas de matériaux à Cayenne pour construire des maisons, réparer le débarcadère. Le peu de bois qu'il y avait à Laurapu et à Trois Carbets ont pris fin. Quand vous enverrez les récidivistes, envoyez aussi du bois et des briques pour que nous construisions leurs maisons. Car pour réparer les ponts, nous sommes obligés d'acheter que du vieux bois. Compère, dit Timothée. Ils ne peuvent pas écrire au ministre pareille chose. Qu'est-ce que tu dis? Reprend Antipa. Tous les jours ne boivent-ils pas ainsi les paroles du ministre? Un ingénieur envoyé par le ministre a dit qu'il y avait plus d'économies à faire en laissant les popotes coucher dans leur hamac aux îles du Salut plutôt que de les envoyer à trois carbets couper du bois. Tu vois le travail ? Le commandant des îles, en entendant cela, a dit « c'est le diagnostic qu'il demandait ». Trois carbets l'embêtaient déjà. Il a mis tous les popotes à changer les roches de place aux îles du Salut. Depuis ce temps-là, c'est seulement ça qu'ils font. Ses amis ont mis leurs popotes à s'occuper du jardinage, à planter des fleurs, mais pour le travail sérieux, on peut toujours attendre. Malgré tout cela, si tu voyais toute la paperasserie qui arrive, à chaque bateau pour l'administration pénitentiaire, toi-même, tu serais affolé. Ordre, contre-ordre, désordre. Toutes ces lettres, ils appellent cela « administrer ». Un commissaire, voyant cela, voulait écrire un livre de toutes ces lettres et de tous ces règlements. Il est mort trop vite. Nous aurions pu y lire quelque chose de drôle. Je connais un commandant des îles du Salut. Quand il recevait un ordre, il ne faisait rien. Il disait « l'autre bateau apportera le contre-ordre ». Et c'était vrai. Ce commandant est maintenant jusque dans un autre pays, je crois. Un pays plus loin que la France. Voilà un blanc qui était drôle. Un jour, je l'ai vu acheter dans une vente à Lancan, dans le bureau de l'ordonnateur, la peau du ventre d'un popote qui avait des tatouages dessus. Il voulait acheter aussi, pour prendre le punch, le calice d'un prêtre qui était mort. Quand les prêtres ont vu ça, ils ont poussé les enchères sur le calice pour l'empêcher de l'avoir. « Laisse-nous donc avec tes histoires de popote, » dit Timothée. « Nous n'avons rien à voir là-dedans. Cela ne nous regarde pas. »«
Comment ça ?» rétorque Atipa.
Tout ce qui se passe dans le pays nous concerne. Les popotes veulent entrer au paradis malgré les saints. Ils veulent que nous payions leur hospitalisation au camp. Et puis, tu dis que ça ne nous regarde pas. T'es pas mieux, tu m'entends? Au camp, tout le monde lorgne là-dessus. Coolies, popotes, les vieux, ils y viennent tous là. Tous les quartiers veulent y mettre leurs vieux. Est-ce qu'il peut accueillir tous les gens d'où qu'ils viennent? À mon avis... Je crois que si les gens riches d'ici se mettaient ensemble, ils feraient construire un hospice pour les gens âgés. C'est ainsi que les gens riches laissent leur nom dans un pays. Une fois que le gouvernement aurait le bâtiment, ils s'en seraient occupés.
Qu'est-ce que tu dis, réplique Timothée. Ce pays de jaloux, deux personnes ne sont jamais d'accord pour ne rien faire, et tu parles de faire un hôpital.
Lorsque ces gens riches font de belles maisons pour y habiter, est-ce qu'ils pensent aux vieux qui sont pauvres?
Tu as raison, compère. Reprend Atipa. C'est ce que je constate moi-même. Je n'ai jamais vu deux se mettre d'accord pour faire même un chemin au placer.
Je ne parle pas des nègres riches d'ici, non. Nous ne pouvons pas demander seulement à eux de tout faire. Ils voient les blancs partir en France avec leur argent. Ils ne font rien, eux-mêmes renoncent. Prends vite à l'eau. Tu ne vas pas croire comment sa découverte de l'or sur le Sinamari a rapporté beaucoup d'argent au trésor. Regarde Saïd, il a acheté des bateaux, il a fait une maison. Où on lave le linge. Si les gens avaient su bien les prendre, ils auraient fait plus que ça. Ils ne sont pas des gens ingrats. Ils voient les blancs qui reculent. Eux-mêmes n'avancent pas. C'est la raison pour laquelle ils disent que notre pays est malheureux, qu'il n'y a rien de bon comme en France. Ne les écoute pas, compère. Ce n'est pas vrai. Ce sont les gens qui ont pointé leur nez deux jours en France qui parlent comme ça pour se vanter. Ils ne connaissent rien de la France. Moi, je suis resté 6 ans en France. Je suis allé tout partout. Je vais te parler de la France. Quand le diable a raison, il faut la lui reconnaître. Je sais qu'en France, tout est beau. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais tout ça n'est pas venu comme ça en France en 2 jours. Et puis, il faut que tu aies du pognon pour vivre dans ce pays. Les pauvres ouvriers qui travaillent comme nous pour gagner leur vie, tu ne te doutes pas comment ils sont miséreux. Je ne vais pas te parler des gens riches. Ils vivent bien dans tous les pays. Mais des pauvres, notre situation est enviable à côté de ceux qui vivent en France. Ils meurent de faim. Ils meurent de froid. Ils doivent avoir toute la journée de l'argent en main. Il n'y a rien pour rien. À chaque pas, tu rencontres des gens sans bras, sans jambes, sans yeux, qui demandent l'aumône. Partout, il y a des gardes champêtres. Les malheureux ne peuvent ni chasser, ni pêcher. Est-ce que chez nous, il y a une telle misère? Si les gens de France connaissaient notre pays, s'ils avaient de l'argent pour payer le passage, ils déferleraient tous en masse à Cayenne. Ici, tout ce que tu mets en terre pousse sans soin. Jugez voir si nous avions des charrues ou même un petit arrière. Les fruits sont abondants. Les mangues, importées par M. Fraissinet, les sapotilles, les avocats, les pommes cannelles, des fruits qu'ils ne peuvent jamais avoir en France. Là-bas, leurs pommes sont blettes, elles ne valent rien. Leurs pêches, leurs poires, leurs prunes, pas un n'approche nos fruits. Malgré ça, ils les comptent sur les arbres pour que les gens ne les volent pas. Ils sont hors de prix. Nos forêts possèdent beaucoup de graines de palmier. Comme les maripas et les comous, nous les avons sans argent. Le jaune d'œuf qui n'est que du jaune d'œuf, il n'y en a pas en France.
Deloen, un habitant de Kourou, avait dit « Un bon awara, cul fendu, est meilleur que tous les fruits de France. » Compère, il avait raison. Quand le froid et la neige disent « Nous voilà !» Les animaux des forêts n'ont plus rien à manger, alors là, compère, fais attention à toi. Les loups sortent de tout partout cherchant les gens. Si tu regardes, côté nourriture, alors que verras-tu? De la viande et du pain seulement, depuis la bonne année jusqu'à la Saint-Sylvestre. Les poissons que les pauvres mangent sont les limandes, les merlans, les rougets. Chez nous, c'est pour les chiens seulement qu'on les fait bouillir. On te dit, les blancs de France n'aiment pas les poissons. Comment veux-tu qu'ils aiment les poissons? Ils ne les connaissent pas, ils ont que des mauvais poissons. Nos mâchoirans, nos cocos, nos kumarous, s'ils les avaient, c'est seulement des gens riches qui en mangeraient. Dans leur vin, il n'y a pas un grain de raisin là-dedans. Ils le font avec n'importe quoi. Le vin que nous buvons ici, c'est le vin que les gens riches boivent en France. Ils sont obligés de nous envoyer du bon vin, sans cela, ils tourneraient dans le bateau avant d'arriver. Toute leur nourriture ont des ingrédients. Leur saindoux, c'est du suif pour graisser les roues des charrettes. Nous pouvons avoir du beurre, du fromage et du saindoux meilleurs que les leurs. Nous avons du lait, nous avons des cochons. Si nous ne les faisons pas nous-mêmes, tant pis pour nous. Et les habits, ce n'est pas dans un magasin de détail que tu trouveras du jungat et du calicot à 6 sous le mètre comme à Cayenne. Il faut que tu achètes un tas de vêtements pour avoir chaud au corps. Ici, deux chemises en jungat et deux pantalons gros bleus seulement te font toute une année. Encore, et le bois pour que tu fasses du feu? Tu paies un pauvre petit paquet de bois, pas plus gros que mon poing, 40 sous. À la campagne, quand le froid tombe sur ces pauvres gens brusquement, c'est dans la paille qu'ils se mettent pour dormir. À Cayenne, il ne fait pas froid. Nous n'avons pas besoin d'acheter du bois et faire du feu pour se réchauffer. Toutes les denrées que tu peux planter, c'est de l'argent. Sans parler de toutes celles que nous avons abandonnées depuis longtemps. Le roucou, tu fais sécher les graines au soleil seulement, expédié en France. C'est bon. Pour le manioc, si nous le travaillons bien, il pourrait fournir de l'emploi, encore beaucoup plus. Avec 4 paniers de manioc, nous pouvons tirer 2 paniers de 6 pas. Pour le café et le cacao, il faut les faire sécher au soleil. Leur prix augmente tous les jours. Sécher sur un feu de bois, c'est pas si bon. C'est comme la colle de mâchoirant. Il faut la faire sécher à l'ombre, c'est mieux qu'au soleil. Tout le bois mao, c'est de l'argent. Leur écorce sert à faire des cordes. Nous n'avons pas besoin de chercher la ramie. Le moukou-moukou, faut le couper seulement, le faire sécher et l'envoyer en France. Ils cherchent tout ça avec un flambeau pour faire du papier. Ils n'ont rien. Ils sont obligés de râper le bois de sapin pour faire du papier. Jusqu'à la bagasse de canne, nous pouvons la vendre. C'est bon pour faire du papier. Tiens, le paria brava, ils le demandent en France. Les oiseaux empaillés, les papillons, ils demandent tout ça. Depuis que Conidet et Bataille sont morts, les gens qui sont là ne s'occupent plus de ça encore. Saint-Prix, Lombard ne sont pas encore morts. Pourquoi ne font-ils rien? Ils semblent avoir perdu le camouguet. C'est la canne à sucre seulement que nous devons abandonner. Son exploitation a baissé. Les blancs plantent trop de betteraves dans d'autres pays. Y a-t-il des endroits où le sésame et l'arachide poussent mieux qu'ici? Tous les légumes du potager, nous les avons, nous pouvons les avoir. Le raisin, les blancs font leur intéressant avec pour rien. Ils poussent tout partout. Monsieur Champlain a déjà fait du vin à Kourou et encore du bon vin. Quant au tabac, ce n'est pas peu dire. Celui que Monsieur Vauquelin a fait pousser, tu me croiras si tu veux, eh ben, tu pourrais t'abriter de la pluie sous leurs feuilles. Voisin connaît toutes ces questions de denrées. S'il voulait les écrire, il n'aurait pas besoin de copier Guisan. Et alors, où mets-tu tous les bois? Rosemal, Wakapou, Balata, pour faire des ponts, pour construire des maisons. Quand les blancs parlent du fer, ils croient qu'ils ont tout dit. Le fer n'est rien à côté de ces bois-là. Cèdre, bagasse pour faire les coques des canaux, chawari, nangossi, bois rouge pour leur courbure, angélique pour les quilles des goélettes, grignon pour les planches, acajou pour les meubles, bois violet, cœur dehors pour les charrettes, wapagra pour les barrières, j'en finirai pas si je les nommais tous. Et les chutes d'eau pour faire tourner les moulins, pour faire des scieries, est-ce que ça manque? Est-ce que nous avons besoin d'aller chercher des machines à vapeur en France? L'eau de la fontaine, Paul Dunaise, à 2 pas d'ici, elle coule gratuitement. Les gens d'ici croient qu'en France, ils regardent avec mépris toutes ces choses. L'herbe crapaud qui n'est que l'herbe crapaud. En France, elle est mise en valeur. Ils la mettent en pot dans leur maison. Et tu ne veux pas que ça me fasse mal au cœur quand j'entends les gens dire « il n'y a rien ici ». Notre pays n'a jamais fait d'emprunt pour faire ses affaires. Personne n'a jamais fait de souscription pour nous. C'est nous qui donnons aux autres, tous les jours. Les tremblements de terre, les ouragans qui ravagent la Martinique, nous ne connaissons pas ça. Le choléra, nous ne connaissons pas ça. La variole, la fièvre jaune, ce sont les autres qui nous les apportent. Tu comprends, Le blanc ne viendra pas te parler de la misère de son pays. Il ne va pas te dire qu'il est pire que le nôtre. Si tu l'écoutes, tu croiras qu'en France, c'est avec de l'or qu'ils font les maisons. C'est créole qui disent du mal de Cayenne. C'est pour se vanter, je te dis. C'est pour faire comme les blancs. Je connais ceux qui sont restés 2 jours en France. Quand ils sont revenus d'avoir joué le jeu, ils ne connaissent encore plus rien de notre pays. Même notre langue, ils font semblant de l'avoir oubliée. Il y en a qui, voyant des Atipas, demandent « Ça c'est Kaïti ?» ou « Ça se plume-ti ?» D'autres, voyant des Komous, ils demandent « Comment appelez-vous cette graine-là? Ce n'est pas une chose pour vous faire honte, non ?» Un bon os ne tombe pas dans la gueule d'un bon chien. Parmi ces gens qui critiquent notre pays, il y a ceux qui ont plein d'argent, qui ont les moyens. Ce n'est pas pour le pays qu'ils restent à Cayenne. En France, on les appelle nègres. Ils n'aiment pas ça. Les belles mulâtresses ne veulent pas s'entendre appeler négresses. C'est pas idiot, ça? D'abord, vous êtes de race noire. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler blanc? Et puis, est-ce que négresse et mulâtresse, ce n'est pas la même chose? Quand le bon Dieu créa les hommes, ils étaient tous nègres. Il les emmena à se laver dans une grande étendue d'eau qui était froide. Ceux qui se sont lavés tout le corps sont devenus blancs. Ceux qui avaient peur de l'eau, ils l'ont juste tâtée de leurs mains. Seulement, ils sont restés nègres. C'est pour cela, vois-tu, que la paume de nos mains seulement est un peu blanche. Le bon Dieu lui-même n'était-il pas mulâtre? Est-ce que son pays est le pays des blancs? Sa mère n'était-elle pas une mulâtresse? Les Arabes, les Espagnols, ne sont-ils pas tous mulâtres? Ils ne sont pas tous de race mêlée? Est-ce qu'ils ne sont pas des hommes tout de même? Tu sais, les blancs de France ne distinguent pas comme nous, capres, mulâtres, mistifs. D'abord, vous n'êtes pas blanc pour eux, vous êtes nègre. Est-ce qu'on a besoin de faire attention à pareille bêtise? Les blancs ne nous connaissent pas. Pour les deux nègres qui sont en France, c'est là-dessus que les blancs voudraient nous juger? Encore, vous diriez que ce sont les plus vilains nègres seulement qui sont allés en France. Moi-même, quand j'étais en France, les enfants des Massogans couraient derrière moi. Encore qu'à cette époque, il n'y avait pas en France autant de nègres qu'à présent. Un jour, un Massogan ne m'a-t-il pas appelé « boule de neige » Je lui ai répondu « boule de concombre !» Je l'ai pris par la peau du ventre. Si on ne l'avait pas arraché de mes mains, je l'étranglais. Je ne suis pas fâché pour ça. Ils sont idiots. Comment les créoles peuvent dire que notre pays n'est pas bon? Tout le monde ici se fait une situation. Où sont les créoles qui ont fait fortune dans d'autres pays? Il n'y a pas. Il y a ce que les Portugais avaient emmené jusqu'à l'Amazone chercher de l'or. Nous attendons toujours cet or. Ils ne savent pas que les Portugais, ces gens-là, sont les rois des coquins. Ici, c'est du savoir-faire seulement dont nous avons besoin. Même ceux qui ne savent pas bien parler, ceux qui ne savent pas lire ni écrire très bien, peuvent devenir riches. Un jour, j'étais devant un magasin, j'ai entendu un qui disait « Monsieur Hérault, en avez-vous de la bonne beurre ?» Il est mort riche. Un autre, recevant un prince sur sa digue à la proague, lui dit « Mon prince, cette digue est motok motok. » Il est mort riche aussi. Je ne sais pas si ce mot-là est entré trop fort dans les oreilles du prince, jusqu'à maintenant il est sourd. Un autre a répondu à un compliment du gouverneur ainsi. « C'est une supposition, monsieur le gouverneur, etc., etc. Il est mort propriétaire. » Un jour, j'étais à une noce, j'en ai vu un qui faisait un passage jusqu'à la porte pour faire entrer les dames. Et puis il a dit « Laissez entrer le sexe féminine !» Regarde bien, il mourra riche aussi. Un autre est allé en France dans un petit village qui a une eau thermale pour soigner le vitiligo. Uriage. Il a dit au patron de l'hôtel que son métier était libéral. Il est riche aussi. Un, appelé tous ses locataires femmes, ses locatrices. Il est mort riche. Il y a un tas d'autres dont je ne me souviens plus. Ils travaillent, ils sont honnêtes, le pays est bon, ils sont obligés d'arriver. Ceux qui se découragent parce que le pays périclite, alors là, tant pis pour eux. Le bon Dieu est bon maître, le pays se relèvera. Aussi, compère, quand tu entends les gens riches parler d'aller vivre en France, ne les imite pas. L'argent se moque d'eux, ils sont pas meilleurs, entends-tu? Ils ont la belle vie fait marquer le pagara. Lorsqu'ils sont en France, pourquoi demandent-ils de la cassave et du calou? Lorsqu'on ne mange pas du chien, on ne boit pas son bouillon. D'autres ont dit pire que ça. Lorsqu'un enfant joue avec sa poupée, il finit par la casser. C'est ainsi que certains sont allés en France jouer avec leur poupée. Une fois la poupée cassée, ils se souviennent qu'ici, il y a du couac avec la pimentade. Hop, tu vois, ils sont revenus. Il y a ceux qui s'en vont parce qu'ici, on ne les considère pas assez. Tu crois qu'ils sont mieux considérés en France? Ils ont tort, là-bas, personne ne les connaît. Il est déjà tard, dit Timothée. Reste souper avec nous. Ma femme a préparé 3 poussicis et 1 platée de haricots. Quand ta femme saura que c'est avec moi que tu as soupé, elle ne dira rien. Je reste, répond Atipa. Oh, femme, dit Timothée. Plaît-il, mon homme ? Répond sa femme. Est-ce que le repas est prêt ?
Oui.
Eh bien, allons manger. Atipa dîne avec nous.
Madame Timothée met le couvert, et puis ils se mettent à table. Pendant le dîner, ils causent de tas d'autres choses. Timothée trouve que les nègres ont tort d'abandonner leurs habitations, eux tous, pour aller chercher de l'or. Atipa lui fait comprendre que ce sera ainsi tant qu'il y aura de l'or. Le salaire d'une journée de travail dans les champs ne rapporte pas assez pour abandonner les placères. Quand ils finissent de souper,
« Avec tout ça, nous avons bien mangé aujourd'hui, » dit Timothée.
« Quoi ? » répond Atipa. « 3 pouces ici et des haricots, pour nous 3, toi, ta femme et moi, c'est ce que tu appelles manger ?
Eh bien, compère, tu n'as pas connu de gros mangeurs.
As-tu entendu parler d'Aimé ? C'était un chef celui-là. Voilà un mulâtre, costaud. Quand il revenait de la pêche, lui tout seul allait son canot pour le mettre sur la berge. Il ne mangeait pas dans une assiette comme nous, une assiette comme la nôtre. Elle était trop petite, c'était dans une terrine qui faisait tromper son couac. Lorsqu'il avait fini de manger, de boire de l'eau, tu pouvais dire que 4 pouces ici comme les nôtres y étaient passés.
Où mets-tu Barthélemy alors ?
Il mangeait 6 dokonos au petit déjeuner.
C'est un pied de balata que tu me coupes ? Dit Timothée en riant.
Vraiment pas du tout, répond Atipa, tout Cayenne c'est ça.
Il y avait un blanc à la prague qui était fort aussi pour ça, on l'appelait Monsieur Bouillon. Quand on l'invitait à déjeuner, il prenait un lavement la veille. Compère, je te dis, si ton boucan n'était pas rempli de viande, ce n'était pas la peine de l'inviter. Ses amis l'invitaient pour le plaisir de le voir manger. Aussi, c'est la bouffe qui devait le tuer. Le jour où il est mort, j'étais allé acheter des outils au grand magasin en face du marché. J'ai entendu un petit blanc qui disait qu'il était mort d'une fausse indigestion.
Ce monsieur Bouillon était vraiment comique. Il était allé à la prague établir une habitation. Avant de faire la bâtie, il a dépensé tout son argent pour faire un beau chemin jusqu'au dégras. Quand le chemin du dégras était terminé, il était obligé d'abandonner. Il n'est pas le seul à Cayenne à avoir fait cette bêtise. J'ai vu au placer des employés faire un établissement avec des carbets avant de prospecter. Quand ils ont creusé le trou de prospection, ils ont trouvé seulement du sable. Ils ont réembarqué pour Cayenne.
Il est 10 heures, compère. Je rentre chez moi, un de ces jours.
Il dit bonsoir à Timothée et à sa femme, et puis il sort.